Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi animée par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Pour présenter cette émission, donc Damien et Laurent et Claude à la technique. L'émission de ce soir est consacrée aux institutions européennes et à la crise démocratique qu'elles subissent. Nous l'avons intitulée « La crise démocratique dans les institutions européennes ». Donc l'Europe, on est parti d'un constat, l'Europe, ou du moins l'institution qui la représente, l'Union européenne, c'est le moins qu'on puisse dire, ne fait plus rêver. Alors comment nous en sommes arrivés à ce niveau de désadhésion, on va dire, parmi les citoyens, alors qu'au sortir de la guerre, l'objectif était plutôt clair, rapprocher les peuples qui depuis un siècle se dressaient les uns contre les autres. Alors, de ce point de vue, on pourrait dire que la construction de l'Union apparaît comme un succès, puisque l'Ouest du continent n'a pas connu de conflit entre les nations depuis 1945. Enfin voilà, ça c'est un point qu'on pourra discuter ce soir. Cependant, depuis 30 ans, l'Union se coupe peu à peu de ses citoyens qui, eux-mêmes, n'ont plus confiance dans ses institutions, qui semblent toujours privilégier les intérêts plutôt économiques aux dépens des avancées sociales. Alors en réponse à ce phénomène, depuis plusieurs années, des mouvements sociaux, syndicaux et citoyens tentent de se construire au niveau européen pour faire entendre leur voix, donc on en parlera également. Donc pour discuter de ces questions, nous recevrons deux des auteurs de l'ouvrage « Le Parlement européen pour faire quoi ?». Donc deux co-auteurs avec Hélène Michel aux éditions du Croquant, Espace Marx et Mémoire des luttes. Donc avec nous ce soir au téléphone Bernard Cassen, qui est président d'honneur d'ATTAC, dont il fut le premier président, et Louis Weber, donc membre de la Fondation Copernic et coordinateur de la rédaction de la revue Savoir Agir. Donc vous pouvez appeler l'émission au 01 40 05 06 10 et puis vous la retrouverez comme toutes les précédentes sur le site internet de la Fondation Copernic. www.fondation-copernic.org. L'émission sera rediffusée mercredi prochain à 7h du matin sur 106.3.
Bonsoir à toutes et tous. Donc un sujet, la crise démocratique dans les institutions européennes, un sujet d'actualité. Donc à l'occasion des prochaines échéances électorales européennes qui se dérouleront en France le dimanche 25 mai prochain, et aussi à l'occasion d'une sortie d'une publication commune de la Fondation Copernic et d'ATTAC, Que faire de l'Europe, désobéir pour reconstruire, il nous a semblé important de revenir sur quelques questions qui permettent d'éclairer le débat des futures élections européennes. J'entends que Bernard Cassen nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Peut-être commencer par une question assez générique. Revenir sur le rôle et le fonctionnement des institutions européennes. Les décrire. Combien sont-elles? Comment elles fonctionnent? Louis Weber, peut-être, pour répondre à cette question.
Oui. C'est le. On va élire le Parlement européen. Je crois qu'il y a une première chose qu'il faut éviter de croire, c'est que ça ressemble terme à terme à un Parlement national. C'est une construction progressive qui n'a pas toujours existé sous la forme actuelle et qui continue à être en construction, d'ailleurs, d'une certaine façon. À l'origine de projets européens que vous venez d'évoquer, en fait, a opposé deux courants, et qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Un courant, disons, qui était plus pour une fédération, pour les États-Unis d'Europe, donc qui était plus pour la prééminence des assemblées élues, des assemblées parlementaires, et un autre courant, inspiré notamment par ceux qu'on appelle les pères de l'Europe, Monnet, Schuman, et ainsi de suite, qui était plutôt pour une approche plus technocratique. C'est-à-dire le rôle premier devait être donné à une instance désignée. Parlait même à l'époque, vu que les Européens étaient censés ne pas pouvoir s'entendre entre eux, On avait même évoqué l'idée d'experts internationaux qui viendraient en fait animer cette commission. Alors, je parle de ça avant avant le traité de Rome de la fin des années 50. Mais ce sont les technocrates en quelque sorte qui l'ont emporté, puisque la première communauté, qui est la communauté européenne du charbon et de l'acier de 1952, la CECA, elle, enfin le rôle de premier plan était joué par une instance non élue, et au dernier moment, les dirigeants de l'époque ont accepté qu'il y ait une assemblée parlementaire, mais elle n'avait qu'un rôle strictement consultatif. Donc, d'une certaine façon, on peut dire, on peut décrire l'évolution de la construction européenne, enfin sous l'angle du Parlement européen, par une tentative longue, sur la longue durée, des parlementaires de jouer un rôle de plus en plus important au détriment des chefs d'État d'une part et de la Commission européenne d'autre part. Aujourd'hui, on est arrivé à un point d'équilibre pour l'instant, mais ça peut encore évoluer en quelque sorte, où le Parlement est aujourd'hui à égalité avec les ministres des différents pays pour décider de la législation. Ça s'appelle aujourd'hui la procédure législative ordinaire, après c'est appelé codécision, étant entendu que de toute façon la Commission européenne garde le monopole de la proposition des différentes lois.
D'accord.
Quand je dis lois, c'est règlements, directives.
Ça, c'est un manquement à l'esprit démocratique. Peut-être, Bernard Cassène, votre avis?
Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Louis, mais je le dirais d'une autre manière. La construction européenne, elle s'est développée à partir d'une tension organisée entre deux logiques. D'une part, la logique supranationale, et d'autre part, la logique intergouvernementale. La logique supranationale, elle est incarnée dans les institutions actuelles par la Commission, par le Parlement européen et également par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce sont trois institutions qui raisonnent ou font semblant de raisonner en termes européens. Alors que la logique intergouvernementale, elle est, comme son nom l'indique, eh bien, elle est portée par les gouvernements, par le Conseil le Conseil européen, qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement des 28 États, et par les différents conseils des ministres. Cette extension progressive des droits du Parlement européen ne va pas, comme l'a dit Louis, jusqu'à lui donner un rôle de véritable parlement, puisqu'il ne peut pas faire ce qu'on appellerait dans le jargon français une proposition de loi, c'est-à-dire une loi d'origine parlementaire. Les lois d'origine gouvernementale s'appelant des projets de loi. Donc le Parlement, bien qu'il ait accru ses pouvoirs considérablement au fil des traités, n'est pas un véritable parlement parce qu'il n'a pas d'initiative. Le monopole de l'initiative est la Commission européenne, instance non élue qui n'a de compte à rendre à personne une fois qu'elle est nommée.
Et concrètement, comment en est-on arrivé là? Enfin, depuis le début, on a parlé de la CECA. Quel était le cheminement un peu de cette construction européenne pour arriver à ces impasses aujourd'hui?
Je crois que il suffit pas de parler de structure institutionnelle. Il faut voir le contenu des politiques. Et là, il y a pas nécessairement accord entre tout le monde et peut-être même entre toi et moi, Louis. Je ne sais pas.
On vérifiera.
Parce que nous sommes co-auteurs, mais pas nécessairement d'accord à 100% sur tout. Que dit le traité de Rome? Le traité fondateur, le traité de Rome de 1957, qui a donné naissance donc à ce qu'on appelait à l'époque la communauté économique européenne au 1er janvier 1958, c'est la mère ou le père de tous les traités. Ce traité est un traité libéral. Très libéral même. Et tout ce qu'on dénonce aujourd'hui, la concurrence libre et l'offre, etc., ça a pour origine le traité de Rome. Il y a au sein de la gauche, souvent une propension à dire, bon, le traité de Rome, c'était très bien. Là où les choses ont commencé à déraper, c'est à partir de l'acte unique européen qui est entré en vigueur en 86-87. Et donc, Le mal commencerait seulement à partir de l'acte unique. Mais l'acte unique lui-même ne fait que mettre en œuvre des dispositions qui sont déjà prévues par le traité de Rome. Ces dispositions, eh bien, ce sont celles qui nous régissent aujourd'hui. Donc, le traité de Rome met au sommet de la hiérarchie des normes la concurrence. Et c'est toujours le cas, évidemment. D'ailleurs, il y a une sorte de contradiction dans les termes, parce que pour une communauté, la concurrence ne va pas avec communauté. Concurrence, le contraire de concurrence, c'est coopération. Donc, le contenu libéral des traités, il date de 1957.
Il était à l'origine, selon vous, c'est ça. Et alors, Louis Weber va vous dire s'il est d'accord ou pas.
Il y a une histoire sainte de la construction européenne qui est reprise par beaucoup de gens, notamment à Copernic et à Attac, certains responsables, qui consiste à faire dater la dérive de l'acte unique. Non, pour moi, le verre était dans le fruit, comme on pourrait dire, dès 1957.
Louis Weber ?
Oui, Bernard a développé une conception qui existe effectivement, et pas seulement dans la gauche qui est actuellement au gouvernement en France, mais aussi à gauche de cette gauche, hein, en quelque sorte. C'est vrai, moi je partage pas ce point de vue. Hein, c'est vrai que dans le traité de Rome, il y a les quatre libertés. Hein, liberté de circulation, des marchandises, des personnes, et ainsi de suite. On peut considérer ça comme une ouverture vers le libre-échange. Hein. Mais c'est quand même, à mon avis, ne pas tenir compte de l'histoire, que d'oublier que la décennie 1980 a été celle de la montée générale des idées libérales en Europe et dans le monde. Hein. D'ailleurs, en 57, on parlait pas de libéralisme, on parlait de capitalisme. Et pour moi, indiscutablement, il y a eu une inflexion très forte, hein, notamment à travers un président de la Commission qui, effectivement, est réputé être un saint de l'Europe. C'est pas un père de l'Europe, mais un saint de l'Europe, c'est Jacques Delors, qui effectivement, a beaucoup fait pour que soit... introduit ces idées de concurrence et de faire de l'Europe une entité économique ultra compétitive. Et toutes les dérives, enfin beaucoup de dérives à mon avis viennent de là. Mais je reviens à la question de la démocratie. Parce que ce qui me paraît être enfin je crois qu'il y a deux volets, hein, pour simplifier. Le premier volet, c'est celui qu'on a brièvement évoqué. Le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois, donc il y a un déficit démocratique dont on parle d'ailleurs depuis 10 ou 20 ans. Même la Commission en parle d'ailleurs, hein. À ce sujet d'ailleurs, il ne faut pas oublier que le Parlement français, il n'a pas non plus l'initiative des lois, hein. Certes, il y a des propositions de loi, mais elles ne passent jamais. Ce sont les projets de loi. Donc,
ça dépend.
Non, mais ça me paraît être un aspect important, mais pas le seul. Hein. Je crois que la démocratie est beaucoup plus menacée aujourd'hui par une tendance, en quelque sorte, à dessaisir toutes les instances élues, qu'elles soient élues au premier degré ou au second degré, et à tout remettre aux mains des experts, hein, en quelque sorte, hein. Et les derniers traités, parce qu'on parle du traité de Rome, on parle du traité de Maastricht, mais le dernier traité, d'ailleurs, le traité sur la gouvernance, est allé beaucoup plus loin dans ce domaine-là, puisque finalement, il enlève aux assemblées élues et même aux parlements nationaux, hein, leurs prérogatives historiques. Hein, en matière de budget, par exemple, hein, qui est le fondement même de la démocratie, quand même, que ce soit les instances élues qui décident du budget. Or, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les principales décisions économiques ne sont plus aux mains des instances élues, mais sont aux mains de Bruxelles.
D'accord.
Et quand je dis Bruxelles, il s'agit de la Commission. Il s'agit même pas, d'ailleurs, des chefs d'État, et encore moins, évidemment, du Parlement européen.
D'accord.
Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Louis. On a un dessaisissement volontaire des États, des gouvernements, pour transférer à des instances non élues des prérogatives qui étaient autrefois exercées à partir de la souveraineté populaire. ça me fait penser à un système qui est pour l'entrée dans les casinos. Je ne sais pas si vous jouez dans les casinos.
Pas moi, mais toi, moi, si tu es à Biarritz, peut-être.
Biarritz, je pourrais jouer, effectivement. mais il y a un fichier national des interdits d'entrée dans les casinos qui regroupe 32 000 personnes.
Ah oui.
Et savez-vous que la moitié de ces 32 000 personnes, ce sont des gens qui ont demandé eux-mêmes à être inscrits sur le fichier pour qu'on leur refuse l'accès au casino, parce qu'ils sentent que quand ils passent devant un casino, ils vont craquer, donc ils comptent sur le physionomiste ou le videur pour ne pas les laisser entrer. Eh bien, on peut dire que les dirigeants politiques, ils se sont inscrits aussi sur un autre fichier, le fichier des incapables de faire de la politique, de décider, et ils ont transféré des pouvoirs, leur pouvoir, à des instances non élues, à savoir la commission, la Cour de justice et une institution dont on n'a pas encore parlé, mais dont on va reparler, qui est la Banque Centrale Européenne. Avec, et si vous ajoutez à cela le fait que entre 50% et 70%, les chiffres varient selon les auteurs, de décisions, de textes qui régissent la vie nationale, c'est-à-dire des lois, ne sont pas élaborés par les parlements nationaux, mais sont élaborés au niveau de l'Union Européenne par les différents gouvernements sous la forme de directives, et à charge pour les parlements de les traduire en français, d'en traduire le contenu dans les différents pays, sans que on puisse s'y opposer. Je dirais que tout gouvernement qui a signé à Bruxelles, qui a adopté une directive, est obligé d'obtenir une transposition de cette directive dans le droit national. Et alors on assiste à des phénomènes curieux. Vous avez des projets de directive qui sont adoptés par un gouvernement, mettons socialiste, c'était le cas de la directive postale. Mais le temps
la directive postale, c'est celle qui a conduit à la privatisation de la poste.
Oui.
Excuse-moi, Bernard.
Oui, non, mais tu fais bien de préciser, effectivement, j'aurais dû le dire. Et la directive postale a été adoptée par le gouvernement français avec ses collègues d'autres pays sous le gouvernement de Jospin, Lionel Jospin. Mais elle est venue en discussion ultérieurement, sous un gouvernement Chirac ou Sarkozy, je ne me souviens plus, je crois que c'est encore Chirac. Et à ce moment-là, les socialistes au Parlement, eux, ont hurlé contre la directive qu'ils avaient pourtant, dont leur représentant ministre avait cependant, que leur représentant avait finalement adopté. Donc, quand on parle du déficit démocratique que tu as évoqué, oui, c'est vrai, mais et la Commission elle-même, pour se prémunir contre les critiques, dit oui, il y a un déficit démocratique. Mais en général, dans l'opinion de la Commission et de quelques autres, le déficit démocratique, il consisterait en un déficit entre, d'une part, le Parlement et, d'autre part, les fonctions exécutives, que ce soit celles de la Commission ou du Conseil. À mon avis, le déficit démocratique n'est pas du tout là. C'est l'ensemble du dispositif qui est y compris Conseil, Parlement et Commission, qui est profondément antidémocratique. Et réduire le déficit à une mauvaise répartition des pouvoirs entre la Commission et le Parlement, c'est se foutre du monde.
Alors, est-ce que les récents, enfin, le Parlement s'est vu attribuer des périmètres supplémentaires. Il va élire le président de la Commission. Est-ce que ça, c'est des avancées positives ou c'est largement insuffisant?
Bon, ce sont des. Excuse-moi, Bert.
Vas-y.
Ce sont des. Enfin, dans ce processus historique que j'ai décrit d'un Parlement européen ayant de plus en plus de pouvoir, en théorie en tout cas, indiscutablement, il y a eu, depuis le traité de Lisbonne, qui est le tout dernier, donc à peu près toute la législation européenne, c'est-à-dire les directives, les règlements, sont soumis donc à la procédure dans laquelle il faut être attentif à ça. Un projet de directive ou un projet de règlement ne peut pas passer si le Parlement ne donne pas son accord. Contrairement à ce qu'un certain nombre de parlementaires européens disent. Hein. Donc, au final, au bout du compte, tout ce qui est adopté, l'est adopté de façon commune, et proposé par la Commission, on revient toujours à ça, mais le Parlement peut s'y opposer s'il veut. Et c'est bien ça. Aujourd'hui, le problème principal du Parlement, qu'on évoque très longuement dans le livre dont il est question, c'est ce processus de dépolitisation, c'est-à-dire un certain nombre de décisions, notamment sur le plan économique, hein, parce que bon, c'est vrai que ça n'intervient pas quand il s'agit de soutenir des réfugiés dans tel ou tel pays du monde, ce que l'Union européenne elle fait aussi, et ce qui est positif. Mais quand il s'agit des décisions économiques, alors à ce moment-là, il n'y a pas de débat politique. Hein. Oui. En fait, tout le monde, enfin tous ceux, chefs d'État et parlementaires européens, s'inclinent hein, devant les propositions de la Commission et de ses experts, ce qu'on appelle communément Bruxelles.
Je vous propose hein, de conclure ces propos préliminaires hein, sur le contexte des institutions européennes par une première pause musicale. Donc nous allons écouter « Comment faire » d'Ali. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Donc l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic a pour thème ce soir la crise démocratique dans les institutions européennes. Donc avant de commencer la deuxième partie de l'émission, voici le moment de la Minute Copernic avec une publication et deux dates à retenir. Donc la Fondation Copernic vient de publier avec Attac l'ouvrage « Que faire de l'Europe ? Désobéir pour reconstruire » aux éditions Les Liens qui libèrent. Cet ouvrage fait un retour sur la pénétration du néolibéralisme dans les institutions européennes, de l'échec de l'euro, sans toutefois défendre une sortie de l'euro. Il est également question d'austérité, question qu'on va aborder immédiatement, et qui semble constituer un véritable projet européen, et une troisième partie consacrée aux mouvements sociaux qui souhaitent s'y opposer. Deux dates à retenir, et deux dates d'actualité pour la Fondation Copernic. Demain, samedi 26 avril, sur le marché de Venelle, en Bouches-du-Rhône, la Fondation Copernic organise la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Cette journée portera sur la sécurité et la santé dans l'utilisation des produits chimiques au travail, journée en direction du grand public et des médias locaux. Il est à noter également que sur le site de la Fondation Copernic, la pétition « Travailler tue en toute impunité » est toujours à signer. Deuxième date à retenir, dans le cadre du séminaire Copernic Mouvement Gauche et Progrès, une prochaine réflexion collective aura lieu le 20 mai sur les enjeux socio-économiques de l'alimentaire dans les locaux de la Bourse du Travail à Paris.
Alors nous allons commencer la deuxième partie de l'émission. Plutôt là on va aborder un peu les questions d'austérité qui sont menées, mais on va les relier aussi justement à ce déficit démocratique. Par exemple, je peux prendre l'exemple des 3% du déficit, enfin des chiffres comme ça, 3% du PIB de déficit, une dette limitée à 60%. Donc on a l'impression que le projet de l'Europe, c'est un peu ou du moins le débat, au moins le débat en termes économiques, mais qui prend quand même quasiment toute la place, se limite un peu à ces critères. Alors comment on peut aborder un peu les choses différemment? Enfin, ça pose vraiment question en termes de déficit de débat ou de ces critères qui nous sont assignés. Alors Louis Weber.
Oui, enfin je vais commencer. Si Bernard veut bien, oui.
D'accord.
Bon, d'abord, ce qui est le plus frappant, c'est que les commentateurs, enfin, ou différentes personnes ont même inventé un néologisme, le terme austéritaire. Hein, c'est-à-dire que c'est non seulement une politique d'austérité, mais cette politique est imposée de façon autoritaire. Hein. Donc je crois que ça décrit bien le processus. On a parlé tout à l'heure des directives hein, et du processus de transposition dans la législation nationale qui laisse toujours une petite marge pour adapter aux traditions. Aux traditions de chaque pays. Mais tout ce qui concerne la politique économique ne passe pas par des directives, mais passe par des règlements. Bon, ils sont élaborés de la même façon. Hein. c'est-à-dire par via le processus dit de anciennement dit de codécision, proposition de la commission, discussion et ainsi de suite. Mais contrairement à la directive, ils sont d'applicabilité directe, c'est-à-dire ils s'appliquent directement. Or tout ce qui a été fait dans le domaine économique récemment et qu'on retrouve dans cet ensemble de politiques d'austérité, bon, c'est fait par des règlements. Alors c'est vrai qu'on a non seulement repris ce qui est l'ancien pacte de stabilité et de croissance, là, les chiffres que vous avez donnés figuraient déjà dans les contraintes européennes, ça date du traité d'Amsterdam en 1980. Oui, renforcé.
Critère d'accession à l'Union.
Voilà, c'est Maastricht-Amsterdam, ça s'appelle le pacte de stabilité et de croissance. À cette époque-là, d'ailleurs, déjà, le gouvernement Jospin, qui venait d'entrer en fonction en 97, au moment où ce truc était adopté, comme il avait fait campagne, pendant toute la campagne, il avait dénoncé ce truc-là. Et comme il pouvait pas se dédire, ce qui montre d'ailleurs bien ce que Bernard a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois ce processus de protestation, mais aussi de consentement, alors il a juste obtenu, en quelque sorte, que ça s'appelle non plus seulement simplement pacte de stabilité, mais pacte de stabilité de croissance. En réalité, ça n'a rien changé au contenu lui-même. Alors je viens à la situation aujourd'hui. Tout ceci a été renforcé. On a même inventé, alors je ne vais pas donner des précisions, mais les limites sont encore plus précises. On a inventé le déficit structurel, qui est très faible, qui est plus qu'à 0,5%. Avec un processus d'élaboration budgétaire qui montre bien que les gouvernements sont dépossédés. Même s'ils sont consentants, ils sont quand même dépossédés de leur pouvoir, et les parlements, bien sûr, puisque tout commence aujourd'hui par ce qu'on appelle un semestre européen, c'est-à-dire c'est le premier semestre de l'année. Au cours de ce semestre européen, les propositions pour le budget de l'année suivante, pendant le premier semestre de l'année précédente, est soumis à la Commission européenne.
Là, par exemple, c'est le budget 2015 qui est en train d'être...
Voilà, qui est soumis à la Commission européenne, qui l'épluche, qui fait ses commentaires. Et ensuite, quand on entrera dans la... au mois de juillet-août, la Commission... donnera son avis sur le budget et quand elle donne son avis, il faut lire ce qu'elle dit.
C'est-à-dire, faut mieux le respecter.
Et ensuite, le processus budgétaire normal en France, par exemple, et dans tous les autres pays européens, c'est au deuxième semestre. Donc c'est au mois de ça commence au mois d'octobre et ça va jusqu'au mois de décembre souvent. Eh bien, il a l'air d'être l'objet d'une délibération, mais en réalité c'est étroitement corseté. Et c'est là que intervient le dernier traité que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui prévoit tout ça. Et en plus, il prévoit alors toute une série de sanctions, c'est-à-dire les pays qui ne respectent pas ça, qui ne suivent pas les directives de la Commission, sont sanctionnés, c'est-à-dire c'est un certain... ils sont condamnés à des amendes, un certain pourcentage de leur produit intérieur brut, et tout ça... Alors je reviens et je termine avec le mot autoritaire, tout ça est quasiment automatique. C'est-à-dire, c'est ça la différence entre ce qu'il y avait avant, où il y avait quand même des formes de délibération. Là, à travers ces règlements, donc le traité sur la gouvernance et deux règlements qui s'appellent joliment le Tupac, un pacte de deux règlements, en fait, contraignent absolument et de façon totale une élaboration centrale des budgets nationaux, qui est tout à fait contraire à l'Europe qui existait auparavant. Il y a eu un changement qualitatif là extrêmement important.
Alors, vous parliez de sanctions pour les pays qui respectent pas ces contraintes. Mais existe-t-il quand même des marges de manœuvre, peut-être Bernard Cassen, pour les pays, ou pas du tout?
Ah non, le traité s'applique à tout le monde. et les sanctions sont, comme dit Louis, les sanctions sont quasi automatiques. Pour qu'elles ne soient pas automatiques, il faut réunir une majorité qualifiée qui s'opposerait à une sanction. Et donc ça, on sait très bien que c'est impossible.
Mmh. Bon, une majorité au Parlement ou
Non, une majorité au sein du Conseil européen.
Ouais,
donc, le Parlement européen n'est pas consulté là-dessus. Mmh. Quelle était la question ? Excusez-moi, j'ai perdu le fil.
Oui, non, je demandais les marges de manœuvre. Parce qu'on voit
si on peut échapper à ça.
On voit des fois des pays qui demandent un délai supplémentaire choses comme ça.
Enfin, oui, concrètement, ça, la date de 2013 ou 2014, elle peut être modifiée. Et c'est le cas, il y a des aménagements, enfin des délais supplémentaires qui ont été concédés. Mais ça ne change rien. Et il va falloir ou bien se soumettre au diktat de la commission, ou bien rompre. Ça, c'est un sujet qu'on abordera. Oui. Là, tel qu'on est, on est dans la seringue, et il y a aucun moyen de s'en sortir, sauf, et ça nous ramène au problème de l'euro, sauf à une dévaluation, mais qui est impossible. Comme il y a une monnaie unique pour des 18 pays, ces pays, leur monnaie n'existe plus, donc il ne peut plus y avoir de dévaluation qui redonnerait un minimum de compétitivité. Donc la dévaluation, elle se fait sous forme interne, avec la baisse des prestations, la baisse des salaires et une concurrence interminable entre États pour être toujours plus compétitif. Il y a une chose qu'on ne dit jamais, la recherche de la compétitivité. Mais la compétitivité, ce n'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose de relatif. On est compétitif par rapport à quelqu'un d'autre, pas en soi. Donc, c'est sans fin. Supposons qu'on prenne des mesures radicales de baisse du pouvoir, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, de baisse du pouvoir d'achat, de baisse des retraites, des salaires, etc., etc. On va redevenir un peu plus compétitif, mettons, par rapport à l'Allemagne. Mais l'Allemagne, dans ce cas-là, pour être encore plus compétitive, ira plus loin que nous, etc. C'est le mythe de Sisyphe, ça.
Oui, bien sûr. Alors du coup, justement, on est, là, l'Europe affronte une crise qui est la plus profonde depuis, on va dire, 1929. On a l'impression, c'est quand même l'Union européenne. Donc, est-ce qu'il y a des mécanismes de solidarité où on est vraiment là que sûr de l'austérité à 100% avec des réductions des dépenses, des coupes budgétaires, quels sont un peu ce qui...
Pour les banques, oui, il y a des mécanismes de solidarité, si on peut dire.
Puisque
le paradoxe de la situation actuelle, c'est que dans le cadre des traités, la Banque Centrale Européenne, elle peut financer, elle a dépensé 1000 milliards d'euros d'ailleurs pour renflouer les banques, mais les traités actuels font que il lui est absolument impossible de prêter de l'argent à un État.
C'est un des objectifs de la politique d'austérité, c'est de sauver les banques en fait. Enfin,
oh, bien sûr.
Concrètement. Oui, bien sûr. Mmh. Oui. Enfin, en tout cas, le oui, c'est enfin de toute façon, c'est pas eux qu'on envoie. Je vais pas donner d'exemple ici parce que je les ai pas en tête, mais au moment où on a vu tous ces personnages là qui passent de la Banque Centrale Européenne à Goldman Sachs
qui, ou la Verve.
Goldman Sachs qui a quand même conseillé la Grèce. Pour qu'elle maquille ses comptes au moment où la Grèce est entrée dans l'euro, et elle en paye le prix aujourd'hui.
Et voilà, est-ce que vous pouvez illustrer un peu aussi la politique justement d'austérité qu'est-ce que ça donne en Grèce? Parce que bon, on commence à le voir un peu en France, mais je veux dire, c'est en Grèce, on a poussé au maximum.
Même un ministre non élu, enfin d'ailleurs.
Vous lirez dans le quotidien du soir d'aujourd'hui, qui est pourtant dans l'engagement européen est en général sans faille. Vous lirez un certain nombre de chiffres qui donnent pour une fois, parce qu'il faut bien montrant comment ça se passe en Grèce. En Grèce, il y a quand même une baisse de 25% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la création de richesse. En 6 ans, le chômage qui était de 9% en 2009 est monté à 27% aujourd'hui, et il est même à 60% chez les moins de 25 ans. C'est quand même
ça fait peur.
Oui, c'est quelque chose qui fait peur.
Et tu pourrais ajouter, Louis, je sais pas si c'est dans le monde de ce soir, parce que là je suis en province, une augmentation de 100% des suicides.
Oui. Mais ça, c'est quelque chose que même dans un pays qui normalement est plutôt favorisé dans la période actuelle. Hein. Je pense à l'Allemagne, par exemple. Mmh. Enfin, tout ce qui est... on commence à sentir dans les statistiques, hein, on commence à vérifier un certain nombre de dégradations dans la santé publique, hein, soit sous forme de suicide, soit sous forme de raccourcissement de l'espérance de vie. Ce sont des choses qu'on voit déjà maintenant. Donc je termine sur la Grèce, mais heureusement que les Grecs ne se laissent pas faire entièrement, hein, puisqu'il y a eu un chiffre absolument énorme de 20 000 manifestants.
Ouais.
Non, 20 000 manifestations en 4 ans.
D'accord, ouais.
Dont 6 000 rien qu'à Athènes sur 4 ans. Donc vous voyez un peu,
oui,
ça bouge. Fait. Mais enfin, pour l'instant, ça ne suffit pas pour changer les chiffres que je viens de donner.
D'accord. Alors on va revenir dans la troisième partie sur justement les mouvements sociaux. Et puis bah, on va essayer de voir un peu comment on peut s'en sortir plus concrètement. Donc on va écouter on va faire une deuxième pause musicale, on va écouter Barbara Göttingen.
Bien sûr, ce n'est pas le sel, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai, pas de roguet, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Pour Göttingen.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic ce soir a pour thème la crise démocratique dans l'Union européenne. Alors, on a conclu la deuxième partie de l'émission, hein, sur des constats, des chiffres assez dramatiques. On va essayer d'aborder cette troisième partie d'une façon un peu plus optimiste, j'aurais tendance à dire. Alors peut-être première question assez générale. Aujourd'hui, que proposent les mouvements sociaux européens, que ce soit citoyens ou de la part des syndicats? Peut-être Bernard Cassen.
Bon, c'est difficile de parler de mouvements sociaux comme ça en général, parce qu'ils sont très divers. Les syndicats, c'est une chose, les associations, c'en est une autre. Les mouvements féministes, enfin, il y a une multitude de mouvements qu'on peut qualifier de sociaux. Et donc, il n'y a pas de proposition unifiée, je dirais, sur pratiquement quoi que ce soit. Sinon,
d'accord,
pour dénoncer, il y a une dénonciation générale des politiques de l'Union européenne, notamment dans les pays que visite la Troïka, c'est-à-dire cet attelage composé de la Banque Centrale Européenne, de la Commission et du FMI, pour imposer c'est la police de l'austérité, appelons-la comme ça. Donc il y a tout cela, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un mouvement européen, social européen unifié pour exiger des mesures positives et non pas seulement pour faire des critiques. Et même les critiques sont pas toujours les mêmes. Donc parler de mouvement social européen, ça me paraît difficile.
Ouais.
Je le vois pas, ce mouvement social en tant que tel. Je vois un grand nombre de mouvements sociaux, mais chacun porteur de telle ou telle revendication, mais avec en toile de fond une hostilité générale au néolibéralisme et aux politiques européennes et aux politiques d'austérité. Alors après, on peut entendre dans le détail ce que proposent les syndicats ou ce qu'ils proposent pas. Alors, disons, il y a une sorte de revendication générale et à mon avis totalement naïve qui est de pour une Europe sociale. L'Europe actuelle ne peut pas être sociale. Donc, c'est un peu comme demain, on rase gratis de promettre de l'Europe sociale. Mais ça part d'un bon sentiment, disons, de vouloir une Europe sociale. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de réalisable dans le cadre des institutions, enfin, des institutions et des traités actuels.
Alors, Louis Weber,
oui.
Une
réaction. Oui, enfin, je crois que Bernard pointe bien la question essentielle, là, c'est-à-dire que les traités, ce qu'ils sont devenus, hein, c'est-à-dire le traité de Rome, le traité de Maastricht, plus les derniers traités que j'ai rapidement évoqués, bon, créent un carcan tel, hein, que si ça bouge pas de ce côté-là, il y a... enfin, on voit pas comment on pourrait en sortir. Hein. Alors, c'est vrai, Bernard l'a évoqué dans sa toute première intervention, que pendant des décennies, quand même, il était difficile, enfin, il était difficile, oui, il était mal vu, en quelque sorte, dans le courant, dans les courants idéologiques dominants. Hein, il était assez mal reçu, en tout cas, de critiquer la construction européenne. Hein. Il y avait une espèce de chape de plomb, d'ailleurs, qui continue d'une certaine façon aujourd'hui. Hein, une des causes du dysfonctionnement du Parlement européen aujourd'hui, hein, qui a plus de pouvoir qu'il n'en utilise réellement, c'est bien cette alliance, disons, qui est ancienne, hein, entre les démocrates chrétiens et les partis socialistes en Europe, hein, et qui dépolitise, hein. Comme on l'écrit dans notre livre, là, c'est quand même assez étonnant de voir les gens se taper dessus à bras raccourcis dans la campagne pour les élections européennes, mais c'est un jeu de dupes. Hein, parce qu'après, ils se répartissent les postes, ils alternent même à la présidence. Aujourd'hui, le président est un socialiste, enfin, du SPD allemand, alors que les socialistes sont loin d'être majoritaires. Donc, il y avait cette chape de plomb.
Mais Louis, juste, je t'interromps pour confirmer ce que tu dis. Il y a eu un débat, je crois, le 9 avril, sur la chaîne internationale France 24, qui opposait Martin Schulz, donc dirigeant du SPD allemand, président sortant du Parlement européen, et candidat des socialistes européens à la présidence de la Commission, donc Schulz d'un côté, et de l'autre Jean-Claude Juncker, ex-premier ministre luxembourgeois, et candidat du Parti conservateur. Alors le débat s'est déroulé, et à la fin, un journaliste pose la question à Schulz, expliquez-nous, monsieur Schulz, ce qui vous différencie. Réponse de Schulz. Je ne vois rien qui nous distingue. C'est lui qui le dit, c'est pas des critiques.
Tout à fait.
Et ils ont même fait il y a même eu ensuite une déclaration entre les deux, Schulz, Juncker, et un troisième larron, qui est Verhofstadt, le candidat, ancien premier ministre belge d'ailleurs, des libéraux, pour dire, ça sera l'un de nous trois. Nous allons y veiller.
C'est ça, oui, c'est une alliance ancienne. Non, mais je veux dire par là que le mouvement social, bon, il est dans les sociétés. Hein. Alors c'est vrai que il est dans les sociétés, et les sociétés, bon, il y a une hégémonie, comme on ne le dit plus suffisamment, une hégémonie idéologique, culturelle, qui fait que c'était pas bien vu de critiquer l'Europe. Hein, ou de critiquer la construction européenne. Alors les syndicats n'ont pas échappé à ça, et pendant très longtemps la Confédération européenne des syndicats approuvait à peu près tout, hein, même si elle réclamait, comme Bernard vient de la rappeler, une illusoire Europe sociale. D'ailleurs, ils le font plus, hein.
Non, ils
ont... Et ils viennent juste pour la première fois, avec le traité sur la gouvernance, s'opposer à ce traité. C'est la première fois qu'ils s'opposaient à un traité européen. Bon, le mouvement, disons, altermondialiste a essayé et ça avait bien commencé, d'ailleurs, Bernard s'en souvient, au début des années 2000, avec les forums sociaux européens. Mais les forums sociaux, c'est pas facile de mettre les gens ensemble. Les forums sociaux européens, ben, ils se sont éteints progressivement. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles initiatives quand même, il faut en parler. Hein. D'abord, il y a eu tous ceux qui n'étaient pas satisfaits, syndicats et associations, et certains hommes politiques qui n'étaient pas satisfaits de la perte du Forum social européen. Bon, on sont en train de mettre au point un processus qui s'appelle l'autre sommet, l'Alter Summit, hein, qui s'est réuni la première fois à Athènes, c'était l'an dernier, qui continue à fonctionner avec des syndicalistes belges notamment. C'est pas un hasard, hein, parce que en Belgique, il y a peut-être une habitude du travail en commun, hein, qui est plus forte qu'elle ne l'est en France, où les oppositions subsistent. Bon, il y a ce mouvement-là. Il y a, alors on n'en a pas parlé, mais je crois que ce serait très long pour en parler, une des initiatives qu'est en train de mettre en œuvre la Commission en fonction de ses prérogatives, c'est les discussions avec les États-Unis sur le traité.
Mais t'as ça, hein.
TAFTA, sur le traité transatlantique, alors qui va être pire que tout le reste, hein, parce qu'il va c'est vraiment un archétype, hein. Enfin, tous ceux qui ont essayé ça, et notamment en Amérique du Nord, on a vu les conséquences, hein, sur les réglementations nationales, sur le droit du travail, et ainsi de suite. Bon, donc il y a un mouvement qui est en train de se faire. Oui. Bernard se souviendra sûrement, je rends à César ce qui est à César, que dans un livre que nous avons écrit ensemble il y a 5 ans déjà,
oui,
à propos des élections européennes, nous avions déjà évoqué l'idée, en nous appuyant sur l'exemple illustre de De Gaulle et de la chaise vide au sommet du Luxembourg dans les années 60, oui.
Oui, 65, 66.
En avançant l'idée qu'il fallait que quelqu'un dise non, qu'il y ait un point de résistance.
Oui.
Bon, à l'époque, on n'était pas nombreux à dire ça. Hein. Aujourd'hui, quand même, y compris le livre auquel il a été fait allusion,
d'attaque
et de la Fondation Copernic.
Désobéir pour reconstruire.
Voilà, l'idée qu'il faille commencer un processus de renversement de la situation actuelle par une désobéissance, hein, alors elle est partagée.
Comment, ouais, j'allais y venir. Du coup, c'est un État qui doit dire non. C'est
concrètement. Vas-y, Bernard.
Oui, je dirais que le texte attaque Copernic marque un progrès considérable parce que longtemps, je m'en souviens, au sein des discussions d'attaque, le mot même de désobéissance européenne, c'était une erreur absolue à pas utiliser. Donc, il y a une évolution dans une partie de la gauche sur ce sujet-là. Bah, moi, je pense que la seule voie de secours, c'est une rupture. Alors, comment ça peut se passer? Bah, il faut qu'il y ait un jour, puisqu'on vit dans un système institutionnel, gouvernemental, intergouvernemental, il faut qu'il y ait un jour un gouvernement qui, doté de la légitimité populaire, dise non, on arrête les frais, on n'applique plus les directives, on ne transpose plus aucune directive, on refuse d'appliquer une partie des décisions prises dans le cadre de l'Union européenne. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est évidemment illégal au terme des traités. Et la Commission européenne, immédiatement, va dire « Mais attention, vous êtes en train de violer tel et tel et tel article du traité, je vous défère devant la Cour de justice de l'Union européenne. » Eh bien, on est dans une crise. Il y a une crise. Et c'est l'occasion de remettre les choses à plat. Au niveau européen. Alors, une crise initiée par un gouvernement, elle peut faire des vagues, c'est-à-dire d'autres gouvernements peuvent les rejoindre, des mouvements sociaux d'autres pays peuvent venir se solidariser, enfin, on remet la discussion complètement à zéro sur la table, puisque l'Union européenne n'est pas réformable de l'intérieur, puisque les clauses de réforme prévoient, entre autres choses, l'unanimité pour le faire. Vous n'obtiendrez jamais l'unanimité. Il suffit qu'un pays, la Croatie ou Malte ou l'Estonie disent non, et il n'y a plus de décision possible. Oui. Donc, il faut que ça parte de quelque part.
D'accord. Alors, Louis Weber, oui, une réaction, puis après on va conclure
l'émission.
Je
pense que c'est effectivement ça, et ça fait de plus en plus l'accord. Et il y a d'autant plus de chances que ça se produise si le mouvement social, le mouvement syndical, dans un pays donné ou au niveau européen, se bat plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Et l'histoire montre que même au Parlement européen, tout n'est pas passé comme la Commission l'aurait voulu. Hein.
C'est vrai.
On parlait de directive, il y a une directive portuaire. Enfin, qui libéralisait qui enlevait leur travail finalement aux dockers, enfin qui cassait les droits acquis par les dockers, mais elle a été rejetée, mais parce qu'il y a eu un très fort mouvement dans les ports qui a été soutenu et ainsi de suite.
C'est possible.
Même au Parlement européen, il faut pas désespérer. Il y a tout de même un groupe ennemi, disons, qui qui dit non et qui est d'accord avec la stratégie que Bernard vient d'exposer, c'est le groupe de la gauche unie européenne auquel participent les députés du front de gauche en France. Les Verts aussi, il leur arrive de dire non pour un certain nombre de choses, notamment quand il s'agit de climat, de pollution et ainsi de suite. Donc il existe des possibilités, mais c'est un processus qu'il faut construire.
Alors, malheureusement, on est un peu pris par le temps. C'était des débats très intéressants. Donc, en gros, on a bien compris, pour avoir des raisons d'être optimiste, il faut bien voter au prochain rendez-vous, au prochain rendez-vous du 25 mai prochain sur les élections européennes. Donc, on tenait à vous remercier. Donc, Bernard Cassen, d'avoir pris du temps depuis Biarritz pour être avec nous. Louis Weber, donc je merci aussi. Je rappelle que vous êtes co-auteurs tous les deux avec Hélène Michel d'un ouvrage qui s'appelle « Le Parlement européen, pour faire quoi ?» aux éditions du Croquant, Espace Marx et Mémoire de lutte. On tenait à remercier aussi Claude à la technique pour avoir assuré l'émission. Donc je vous rappelle que l'émission, vous pouvez la réécouter si vous levez tôt, mercredi prochain, donc à 7h, sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Sinon, elle sera téléchargeable sur le site de la Fondation, fondation-copernic.org, et que la prochaine émission qui se déroulera le 23 mai aura comme thème « Bien public et gratuité ». On se quitte en musique avec Asian Dub Foundation, Fortress Europe. Merci à tous.
Bon week-end.